Et bonjour à vous, ravi de vous retrouver RFI Matin, 3 heures d'infos tout autour du monde qui commence maintenant, aujourd'hui mardi 16 juin. On aura dès ce matin les yeux et les oreilles rivés vers New York où la France et le Sénégal débutent ce soir face à face leur Coupe du Monde de foot entre les coqs et les lions. Qui va l'emporter? On entendra ce matin les supporters, on se penchera aussi bien sûr sur l'aspect sportif. C'est à la une de notre matinée. Bonjour Pierre Boudias.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Dans votre journal, Pierre, on parle aussi de ce protocole d'accord entre États-Unis et Iran. L'administration Trump encense ce texte.
Un traité qui va permettre au pétrole de couler à flot, selon Donald Trump, qui va rendre la région plus sûre pour son vice-président. Mais si la Maison-Blanche bombe le torse, la classe politique américaine se montre plus sceptique, vous l'entendrez. Principale réussite mise en avant par Washington, la réouverture du détroit d'Ormuz. Mais les modalités de ce retour à la navigation divergent entre les États-Unis et Téhéran. Il sera gratuit, selon Donald Trump, payant pour les autorités iraniennes. Nous serons également en France, où la situation au Moyen-Orient et en Ukraine seront sur la table des dirigeants du G7. Deuxième jour du sommet à Évian, en présence aujourd'hui de Volodymyr Zelensky, mais toujours sans aucun représentant chinois. Pékin non convié, mais pourtant dans tous les esprits. Et puis les élus français qui se penchent sur la question sensible de l'autonomie de l'île de Corse, et les Argentins qui se pressent pour rendre hommage à une des figures de la lutte contre la dictature. C'est à retrouver en fin de journal.
Donald Trump assure déjà le service après-vente de son protocole d'accord avec l'Iran.
Un accord déjà signé électroniquement hier, selon le président américain, qui annonce une cérémonie officielle vendredi en présence de son vice-président. Depuis le sommet du G7 en France, le locataire de la Maison-Blanche n'a pas tari d'éloges sur le texte. Il va, selon lui, permettre la réouverture complète du détroit d'Ormuz dès vendredi. Que le pétrole coule à flot, s'est également félicité le locataire de la Maison-Blanche sur son réseau Truth Social. Et si les marchés ont réagi positivement avec un prix du baril en chute de près de 5%, la classe politique américaine se montre, elle, beaucoup plus sceptique, interpellée notamment par les nombreuses questions qui restent à négocier avec Téhéran. À New York, Loubna Anaki.
J.D. Vance en est sûr, cet accord va apporter la sécurité et la stabilité dans toute la région. Le vice-président sera à la tête de la délégation américaine pour la signature officielle du protocole d'accord avec l'Iran prévu vendredi en Suisse. Et sur la chaîne CNBC, il salue une victoire pour Washington.
Leur armée est détruite, le détroit d'Ormuz est ouvert, leur programme nucléaire a été détruit et nous avons des moyens de pression économique qu'on n'avait pas il y a un an et demi.
Un message de victoire repris par les alliés de Donald Trump, même si dans le camp républicain, chez les faucons qui attendaient une victoire militaire plus décisive, certains se montrent sceptiques. Le sénateur Lindsey Graham a émis des réserves et s'est dit, je cite, préoccupé par le fait que la vision qu'a l'Iran de cet accord semble différer de celle présentée par l'équipe de négociation américaine. Il insiste sur le fait que tout accord définitif devra être validé par le Congrès. Côté démocrate, Hakeem Jeffries dénonce une guerre pour rien.
Les prix de l'essence ont flambé, l'Iran est plus fort aujourd'hui et les Américains sont moins en sécurité.
Et certains démocrates n'hésitent pas à parler d'une reddition de Donald Trump. Loubna Anaki, New York, RFI.
Donald Trump qui a estimé hier que les États-Unis n'auraient pas besoin de beaucoup d'aide pour permettre la réouverture du détroit d'Ormuz. 5 navires iraniens auraient déjà franchi le corridor stratégique ce matin, selon les médias de la République islamique.
Un détroit ouvert, oui, mais pas forcément gratuitement.
Car si Donald Trump assure qu'aucun péage ne sera perçu par l'Iran pour la traversée du corridor, les médias iraniens, encore eux, évoquent un service maritime et donc des frais supplémentaires pour les navires souhaitant naviguer dans le détroit d'Ormuz. Paul Touret est directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime à Saint-Nazaire et pour lui, la question est loin d'être réglée et de nombreuses options sont sur la table.
Les Iraniens veulent transformer leur simili raquette en un droit de détroit qui n'existe pas dans les réglementations maritimes internationales. Est-ce qu'on peut aller sur quelque chose? Ça sera sûrement pas les 2 millions de dollars. Est-ce que ça peut être des frais de service partagés avec Oman? Pour l'instant, on est dans le flou. Ça pourrait être dans le cadre de l'accord pour donner quelques sous, on pourrait dire, à l'Iran, en utilisant éventuellement un précédent qui sont les droits que perçoit la Turquie sur les détroits des Dardanelles et du Bosphore au nom de la sécurité maritime. C'est des frais de service qui pourraient être éventuellement les frais de sécurité, de suivi. Alors évidemment, ça pose la question, pourquoi Singapour n'en fait pas avec l'Indonésie et la Malaisie? Pourquoi n'en faisons pas nous avec l'Angleterre au Pas-de-Calais ou les Espagnols et les Marocains à Gibraltar? Peut-être d'ailleurs, ça pourrait être pas une mauvaise idée d'introduire une forme de petits frais de passage d'endroits maritimes sensibles qui seraient partagés par les États qui, eux, en réalité, ont quand même des charges de sécurité. Hein. Et là, on est plus dans la résolution du conflit que dans des vrais services maritimes qui auraient un intérêt aujourd'hui en termes de sécurité.
Le chercheur Paul Touret et autres flous qui entourent ce protocole d'accord, l'avenir du Liban, si Téhéran et Washington se sont accordés sur le principe d'une fin des opérations israéliennes sur place, le son de cloche est bien différent du côté de Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien l'a à nouveau martelé hier, son armée ne quittera ni Gaza, ni la Syrie, ni le Liban. La situation au Moyen-Orient qui passera légèrement au second plan aujourd'hui au sommet du G7. Si une réunion est bien prévue ce midi avec la participation des Émirats, de l'Égypte et du Qatar, c'est le dossier ukrainien qui occupera ensuite les dirigeants occidentaux à Évian-les-Bains. Volodymyr Zelensky est attendu ce matin à la station thermale française pour tenter d'obtenir une condamnation plus ferme de l'agression russe par les États-Unis. Un invité de marque pour un sommet lors duquel la Chine brille une nouvelle fois par son absence. Non convié, l'empire du milieu et son poids économique sont pourtant sur toutes les lèvres. Les dirigeants occidentaux semblent davantage décidés à parler de Pékin plutôt qu'avec Pékin. Correspondance de Claire Broadhurst.
La Chine n'est pas autour de la table du G7, mais elle s'invite dans presque toutes les discussions. Premier exportateur mondial, détentrice d'un quasi-monopole sur certaines terres rares, deuxième économie de la planète, Pékin est devenu incontournable. À tel point que certains experts comparent un G7 sans la Chine à une Coupe du Monde sans le Brésil. Pourtant, son entrée dans le club paraît hautement improbable. Le G7 se définit avant tout comme un regroupement de démocratie libérale, un critère que la Chine de Xi Jinping ne remplit pas. Résultat, les dirigeants occidentaux cherchent plutôt à coordonner leurs réponses face à ce qu'ils considèrent comme un défi commun. Emmanuel Macron a fait de la question des déséquilibres commerciaux avec Pékin l'un des thèmes centraux du sommet. Mais la Chine ne semble pas disposée à modifier son modèle économique. Lors d'une visioconférence organisée en amont du G7, Pékin a défendu le multilatéralisme et rejeté toute remise en cause de sa stratégie. Une preuve peut-être que le principal défi du G7 n'est plus de savoir comment contenir la Chine, mais comment composer avec elle. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
Et à noter que les députés européens doivent approuver à la mi-journée l'accord commercial conclu l'an dernier entre les 27 et les États-Unis, texte qui supprime les droits de douane de la plupart des produits américains dans l'Union en échange d'un plafonnement des taxes américaines à 15%.
LFI à Dakar, 92 FM.
Il est 5h08 à Dakar, la capitale sénégalaise, Pierre, qui vibre déjà pour ses lions.
Les coéquipiers de Sadio Mané font leur entrée en Coupe du Monde ce soir à 19h temps universel. Sur leur chemin, la France de Kylian Mbappé, d'Ousmane Dembélé, de Michael Olise, une armada qui n'effraie pas les supporters des finalistes de la dernière CAN, des places publiques au Gargote. La même confiance, le même mot d'ordre, ne pas manquer ce rendez-vous. C'est un reportage d'Abib Diallo.
Le suspense est déjà palpable dans cette Gargote de la capitale sénégalaise. L'un des clients, Harouna Ndour, est catégorique. L'équipe sénégalaise n'a rien à envier à celle des Bleus.
Ils évoluent tous dans le même championnat. Donc, on ne doit pas avoir de complexe devant leur équipe. La défense et le milieu doivent être solides pour faire face à la vivacité des joueurs français. En 2002, personne ne prédisait la victoire du Sénégal. Et je trouve que cette équipe que nous avons est largement au-dessus de celle que nous avions à l'époque. Donc, on peut déjouer cette équipe de France.
Profitant de sa pause, Babacar Sy se montre lui aussi confiant.
L'équipe de France, et ça a fait deux finales de Coupe du Monde d'affilée, mais sur les 18 dernières éditions de la Coupe du Monde, ils ont perdu qu'une seule fois un match d'ouverture, et c'était contre qui ? Le Sénégal, évidemment. Donc, ça va, on est confiant.
Plus loin, à un arrêt de mototaxi, Ibrahima Sori Diallo appelle tout de même à la vigilance.
Ma seule inquiétude, c'est l'attaque de cette équipe de France. Mais après tout, sur le terrain, ils ne seront que 11 contre 11.
Les maquis et les restaurants se préparent en tout cas à faire de ce France-Sénégal une grande soirée populaire. Pour l'occasion, une fan zone est prévue à la place de la Nation. Avec Diao, Dakar.
Et la journée d'hier à ce mondial nord-américain était celui des matchs nuls notamment entre l'Arabie Saoudite et l'Uruguay, un but partout, dernière en date, celui de l'Iran et la Nouvelle-Zélande qui se sont quittés sur le score de 2-2. Un mot de l'actualité en République démocratique du Congo, une nouvelle étape a été franchie dans le processus pouvant mener à un éventuel référendum constitutionnel après l'Assemblée nationale. Le Sénat a à son tour adopté hier la proposition de loi qui fixe les modalités d'organisation de ce scrutin. Pour rappel, l'opposition dénonce les velléités de réforme portée par le camp présidentiel et craint de voir le président Félix Tshisekedi briguer un troisième mandat à la tête de l'État. En France aussi, une réforme constitutionnelle est dans les tuyaux, celle qui vise à inscrire dans la loi l'autonomie de la Corse. Les députés débutent aujourd'hui l'examen du projet de loi qui pourrait mener à la satisfaction de cette revendication portée de longue date par les citoyens de l'île de Méditerranée. Et après les violences qui avaient marqué il y a 4 ans l'assassinat en prison du militant nationaliste Yvan Colonna. Mais Marie Lecoq, l'idée d'une autonomie de l'île ne fait pas consensus au sein de la classe politique française.
Il y a 4 ans, Gérald Darmanin, à l'époque ministre de l'Intérieur, l'avait présenté comme un geste d'apaisement en ouvrant la voie à un renforcement de l'autonomie de la Corse. Concrètement, cela veut dire que certaines lois et certains règlements qui s'appliquent partout en France ne s'appliqueraient plus là-bas. Mais ce n'est pas tant le fond du dossier qui divise la classe politique, ce sont plutôt les termes. À gauche, certains élus contestent la notion de communauté. À droite, même réserve, mais c'est aussi et surtout sur le transfert du pouvoir législatif que ça coince. Quant au Rassemblement national, on marche sur un fil entre son rapprochement avec les nationalistes corses et sa volonté de défendre une contre-proposition limitant ce pouvoir. Les indépendantistes corses auront un œil acéré sur les débats. Dans les colonnes de la Tribune dimanche, le maire de Bastia, Gilles Simeoni, a prévenu qu'un rejet du texte serait, je cite, « lourd de conséquences perturbantes ». Les débats doivent se poursuivre jusqu'à vendredi. Le texte sera ensuite examiné au Sénat à l'automne, puis devant le Congrès, où il devra réunir les 3/5 des parlementaires.
Marie Lecoq, le parlementaire français qui s'apprête également à entériner l'allongement de la durée de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière jugée dangereux. Un texte voté hier au Sénat qui doit passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vote prévu dans l'après-midi.
Et puis direction Buenos Aires, Pierre, pour rendre hommage à une figure de la lutte contre la dictature.
Tati Almeida, décédée dimanche soir à l'âge de 95 ans et à la suite d'une vie dédiée à la recherche des disparus, des années de plomb, de la fin des années 70 et du début des années 80. Depuis hier, sa dépouille est exposée dans la capitale argentine et des centaines de citoyens se déplacent pour venir lui dire adieu.
Thank you. l'intention de tenir l'antenne 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après, s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur ?
Principe actif, 102.4 FM.
J'ai flingué mon ego au terminus des prétentieux. Entre l'adorable et l'immonde créature, je me place.
je me perds, je me retrouve, je m'enterre. Bouffe les pissenlits par la racine. Silencieux comme le chasseur qu'on passe les faisans. Regarde-moi dans le fond des yeux, ses yeux rendus vitreux et hagards par l'excès de kiff. Mon pur index est lent, la fin est proche, on reste trop tard. Cavalcade et carambolage, je me lève et repars. Traverse les rues, les années, le monde dans lequel je vis. Les égouts du paradis, mort vivant pourri. Les carottes sont quittes, le drapeau noir flotte au-dessus de la marmite. Qu'on y pleure ni cherche, dois réussir, tendre voyou, voleur d'amour. J'attends que celui-ci tombe à pic, mon cœur sur le carreau. Je dois faire mon trou, entre passe-muraille et drôle de caïd. Je ne cause plus, je plingue, laisse passer la bande à papa. 100 millions d'euros au soleil ou sous la pluie. Bientôt vieux de la veille, marginal et réfléchi.
Marginal et réfléchi.
Je me fais un café, une clope et un petit film en blanc et noir.
Un café,
une clope et un petit film en blanc et noir. Je me fais un café, une clope et un petit film en blanc et noir. Je me fais
un café,
une clope et un petit film en blanc et noir. De lumière et de sang, celui-ci monte à la tête. Une bête à l'affût, plus mélodie en sous-sol. J'en batte, s'en batte en guerre, légitimement déviant. Un conflit sans armistice entre moi et mon moi. Un duel à travers les âges, je gagne, je perds du temps, je m'assagis. Mon cœur va fort, il y a le peu quelque part. Le car sur bif, la camberger du pif. J'entends bien ne pas suivre le vent. Ma fine vedette sans maquillage, je dois être délicat et de bonne compagnie. Baptiste raffiné, un peu Archimède. J'attends la belle étoile, marche entre un machin tocard. Jusqu'au dernier jour, jusqu'à sacré dernier souffle. Bon baiser à je m'en vais pour une mortelle randonnée. J'ai cette voix en moi qui me dit va. Je débat des blatters, Baxter. Écoute les confidences d'un barjo. Sacré sac de nœuds, combien de fois de battre. Mon cœur s'est arrêté, j'ai vu, je regarde les hommes tomber. Ton rouillé d'eau, je dois marquer un virage à 180 degrés. Je me fais
un café,
une clope et un petit film en blanc et noir. Un café, une clope et un petit film en blanc et noir. Je me fais un café, une clope et un petit film en blanc et noir. Je me fais
un café,
une clope et un petit film en blanc et noir. En blanc et noir. En blanc et noir. En blanc et noir. En blanc et noir.
That I could easily change his mind. Give him a wink romantically and start to break him down. Go ahead and act real cool, cause it won't be long now. Tell me how long until you say you love me. Tell me how long until you say you're mine. Call me morning, noon or night, or make it rain or shine. You bring when you arrive. You didn't tell your wife you're here, and baby, that's alright. It'll be our secret, keep it on a lock and key. And when you say you miss her, you're really missing me. Tell me how long until you say you love me. Tell me how long until you say you're mine. Me over here and you over there. So hey, good looking, tell me, are you scared?
radio aussi grâce au DAB+.
Le DAB+,
c'est la transformation numérique de la radio.
Cette évolution vous offre un son de qualité numérique, donc encore plus intense pour tous vos programmes préférés.
Vous écoutez Principe Actif sur le DAB+.